Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de la Voix de l'Amérique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 24 septembre 2014, en direct de Washington. Au micro, Morgane Guerriec et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire ce matin, raid contre l'État islamique en Syrie, réaction positive pour la plupart. Le président américain parle d'un message clair aux djihadistes.
Le sort de l'otage français enlevé en Algérie demeure incertain ce matin. Paris refuse de céder à l'ultimatum des djihadistes.
Les autorités du Congo-Brazzaville annoncent l'expulsion de la journaliste Sadio Kanté vers Bamako.
Israéliens et Palestiniens ont convenu de reprendre les pourparlers de paix le mois prochain.
Au Mali, la société civile appelle à manifester demain pour l'intégrité territoriale du pays.
On ne sera jamais d'accord pour que le Mali soit divisé. Pas de division, pas de l'indépendance à côté, pas d'autonomie, pas de fédéralisme. Le Mali est un indivisible.
Sans oublier nos pages sport et musique, mais avant le journal.
Raid contre l'État islamique en Syrie. Le président américain estime que la formation d'une coalition contre l'organisation islamiste envoyait un message clair aux djihadistes ultra-radicaux. Barack Obama a estimé mardi à New York en présence de ses alliés arabes. On fait le point avec Henri Francisque.
Grâce aux efforts sans précédent de cette coalition, je pense que nous sommes en mesure d'envoyer un message clair indiquant que le monde est uni, a déclaré M. Obama à l'issue d'une rencontre avec des responsables de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Jordanie, de Bahreïn et du Qatar. Les États-Unis, aidés de leurs alliés arabes, ont pour la première fois attaqué mardi les djihadistes de l'État islamique en Syrie. Selon le président américain, cette coalition démontre la détermination de la communauté internationale à affaiblir et détruire non seulement l'État islamique, mais aussi le type d'idéologie qui mène à tant d'effusions de sang. Les frappes des États-Unis et de leurs alliés arabes mardi ont été menées au moyen d'avions de chasse, de drones, de bombardiers et de 47 missiles Tomahawk tirés depuis des navires américains.
De son côté, le Royaume-Uni envisage de participer au bombardement de l'État islamique. C'est du moins ce que dit la presse britannique, citée par l'AFP. Le Premier ministre britannique estime que le Royaume-Uni n'a d'autre choix que lutter contre ces djihadistes. Ils nous ont dans leur ligne de mire et nous devons mettre en place cette coalition pour s'assurer que nous détruirons au bout du compte cette organisation malfaisante, a déclaré David Cameron. Selon le journal The Independent, M. Cameron pourrait convoquer les parlementaires britanniques à son retour du sommet de l'ONU à New York pour débattre de la participation du Royaume-Uni aux frappes.
Le sort de l'otage français enlevé en Algérie demeure incertain ce matin. Lundi, ses ravisseurs, membres du groupe djihadiste algérien Jun al-Khalifa, menaçaient de l'exécuter si la France ne renonçait pas dans les 24 heures à ses frappes en Irak. Un ultimatum auquel Paris refuse de céder. Issia Kaba.
Aussi grave que soit cette situation, nous ne céderons à aucun chantage, aucune pression, aucun ultimatum. Nous continuerons à apporter notre soutien aux autorités irakiennes. C'est ce qu'a déclaré le président français François Hollande hier à New York. Au même moment en Algérie, l'armée se livrait à une course contre la montre pour extraire des mains de ses ravisseurs l'otage Hervé Gourdel, 55 ans, enlevé dimanche en Kabylie. Guide de haute montagne, il participait à un trekking au moment du rapt. De nombreux barrages de gendarmes ont été mis en place sur la route qui traverse en lacet le massif montagneux dans lequel le Français a disparu. J'ai pleine confiance dans les forces de sécurité algériennes pour que tout soit fait pour que nous retrouvions notre compatriote, a ajouté le président français. Paris n'aura aucune discussion, aucune négociation avec les ravisseurs, avait affirmé dans la matinée le Premier ministre Manuel Valls.
En Égypte, 4 membres d'un groupe djihadiste ont été tués hier lors d'une opération de la police dans la péninsule du Sinaï. C'est ce qu'indiquent des sources sécuritaires citées par l'AFP. À bord d'une voiture, les 4 djihadistes qui font partie du groupe Ansar Beit al-Maqdes ont été tués par des tirs de la police. Le groupe dit agir en représailles à la sanglante répression ciblant les pro-Morsi qui a fait au moins 1400 morts depuis l'éviction de l'ex-président de l'ex-président, pardon, Ansar Beit al-Maqdes, a récemment apporté son soutien au groupe ultra-radical l'État islamique, qui gagne du terrain en Irak et en Syrie, et contre lequel une coalition internationale menée par les États-Unis a lancé des frappes aériennes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Israéliens et Palestiniens ont convenu de reprendre les pourparlers de paix le mois prochain sur la consolidation du cessez-le-feu signé le mois dernier. Les précisions de Claire Morin-Gibourg.
La décision a été prise hier durant des discussions sous la médiation de l'Égypte, des discussions qui ont été retardées de plusieurs heures, les Palestiniens ayant menacé de se retirer suite à la mort de deux militants du Hamas abattus par Israël. L'État hébreu accusait les deux hommes d'avoir pris part à l'enlèvement et au meurtre de trois adolescents israéliens au mois de juin en Cisjordanie. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, les deux hommes ont été tués dans un échange de tirs à Hébron. L'enlèvement des jeunes Israéliens et leur meurtre avaient déclenché une série d'incidents qui ont culminé par la sanglante guerre de Gaza des mois de juillet et août. 2100 Palestiniens et 72 Israéliens ont péri dans ce conflit.
Sommet de l'ONU sur le réchauffement climatique à New York. Les dirigeants mondiaux se sont engagés hier à redoubler d'efforts, mais les fonds peinent à être levés. Ainsi, d'après le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, le fonds vert de l'ONU n'a obtenu pour l'instant que 2,3 milliards de dollars, dont 1 milliard promis par la France. C'est très loin de l'objectif du fonds, qui est de réunir 10 milliards de dollars d'ici la fin de l'année et 100 milliards par an à partir de 2020.
L'Organisation mondiale de la santé a demandé ce mardi un renforcement des mesures de lutte contre la fièvre à virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Si rien n'est fait, avertit l'OMS, la maladie pourrait toucher 20 000 personnes d'ici à novembre, trois fois plus qu'à ce jour. Les centres américains de contrôle et de prévention des maladies donnent des chiffres encore plus alarmants. Dans un rapport publié aujourd'hui, ils indiquent que le nombre de cas d'Ebola pourrait atteindre jusqu'à 1,4 million d'ici au 20 janvier prochain.
Les autorités du Congo-Brazzaville ont annoncé hier avoir expulsé vers Bamako la journaliste indépendante Sadio Kanté, précisant qu'elle est de nationalité malienne et née à Brazzaville. Jointe par l'AFP, la consort a affirmé qu'elle était dans le collimateur des autorités depuis quelque temps. Elle a été la première à tirer la sonnette d'alarme à la suite de l'agression à Brazzaville du journaliste camerounais Ellie Smith et du viol de la sœur de ce dernier. Timothée Nongmaï a contacté à Brazzaville Trésor Nzila, secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
J'ai eu un entretien au téléphone avec la journaliste qui m'a relaté les conditions humaines dans lesquelles elle a été expulsée vers Bamako. Elle est arrêtée vers 17h, heure de Brazzaville, et à 1h, on a présenté à la police l'aéroport de Mayamaya et c'est vraiment qu'il a été expulsé vers le Mali.
Les autorités disent l'avoir expulsé pour défaut de titre de séjour au Congo-Brazzaville.
Ça reste encore à vérifier, mais je vous rappelle qu'en date du 11, elle a été interpellée à la direction générale de la police. Elle a été reçue par le directeur général de la police, le général Jean-François Ndongo, le général Biki, le colonel Jules Mukala, et on lui a reproché le fait d'avoir répandu sur les réseaux sociaux les informations et les images relatives à l'agression du journaliste Félix Mif. Et donc, cette raison de défaut de séjour paraît à vérifier.
Voilà, c'était Trésor Nzila, secrétaire exécutif de l'Observatoire congolais des droits de l'homme, joint à Brazzaville.
Pour finir, des nouvelles de l'espace, l'Inde a réussi à placer sa sonde en orbite de Mars. Un succès pour cette première mission indienne vers la planète rouge, a annoncé le Premier ministre Narendra Modi.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec. Place maintenant à la partie magazine de notre émission. Au Burkina Faso, le président Blaise Compaoré a reçu hier au palais présidentiel la majorité et l'opposition pour les exhorter à entamer des discussions sur la question d'un référendum constitutionnel qui lui permettrait de briguer un autre mandat en 2015. La majorité veut faire sauter le verrou de l'article 37 de la Constitution qui empêche le président Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans, de briguer un autre mandat, alors que l'opposition s'est mobilisée pour préserver cet article. Pour une réaction aux discussions d'hier à Ouagadougou, Timothée Donangmaï a joint Augustin Loada du Centre pour la gouvernance démocratique.
A priori, c'est une initiative qui est la bienvenue parce qu'elle contribue à la décrispation des rapports politiques. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Les positions des uns et des autres ont été réaffirmées. L'opposition politique a réaffirmé sa position en tout cas, c'est-à-dire non au Sénat et non à la modification de l'article 37 de la Constitution. Je crois savoir que la majorité, le Front républicain, ont fait de même. Il faut reconnaître que si a priori le dialogue démocratique est une bonne chose pour le renforcement de la démocratie, il ne faut pas aussi oublier le bilan du régime en place en matière de dialogue politique, parce que toutes les initiatives qui ont été entreprises ces dernières années ont plus ou moins été perçues par l'opposition comme des stratagèmes, parce que on observe que lorsque le pays est en situation de crise, il y a des cadres de dialogue qui sont créés, mais qui n'aboutissent pas à des recommandations consensuelles, en tout cas à des solutions durables aux situations de crise, si bien qu'on a l'impression de déjà-vu.
Qu'en est-il du principe d'un référendum qui permettrait aux Burkinabés de se prononcer sur la question?
Justement, c'est là le problème, c'est-à-dire que la majorité tend à présenter le référendum comme une solution à une situation de crise, alors que c'est le référendum qui est le problème, dans la mesure où il apparaît un peu comme une stratégie de manipulation des règles du jeu démocratique. Vous savez très bien que la limitation du nombre de mandats présidentiels au Burkina Faso a une histoire qui remonte depuis la 2e, 3e République, la 4e République, avec les modifications incessantes. Donc ce n'est pas la première fois que la question se pose dans notre pays. C'est pour cela que la question du référendum a été perçue comme étant problématique et non comme étant une solution, parce que effectivement, on a l'impression que on est en face d'un pouvoir qui arrive au bout du rouleau et qui sort le référendum comme, je dirais, une solution au problème qui est celui du refus de l'alternance démocratique au Burkina Faso.
Donc, selon vous, le Burkina est encore loin du bout du tunnel?
Quand je regarde par rapport à ce qui s'est passé il y a quelques années de cela, moi, ça me laisse perplexe parce que, bon, on sait très bien que le président n'est pas dans un état d'esprit de quitter le pouvoir. La majorité qui le soutient ne cesse de réaffirmer sa position, à savoir déverrouiller l'article 37 de la Constitution. Et en face de l'opposition aussi, on ne tient pas cette fois-ci à se laisser distancer. Et donc, à mon avis, il faut être très prudent par rapport aux résultats de ce dialogue-là. D'autant plus que le président donne l'impression qu'il pourrait être un médiateur dans cette situation de crise, alors que c'est lui la source du problème.
Voilà, c'était Augustin Loada du Centre pour la gouvernance démocratique à Ouagadougou. Au Mali, des marches sont prévues demain à Bamako et dans les autres grandes villes pour protester contre toute idée de division du pays, de fédéralisme ou encore d'autonomie. Les initiateurs sont des représentants religieux et des organisations de la société civile. L'appel à manifester a été lancé hier dans le cadre de concertation de la plateforme des organisations de la société civile au cours d'une conférence de presse. Kassim Traoré, notre correspondant sur place, nous en dit plus.
Après les marches des populations de Gao et Tombouctou, les organisations de la société civile malienne ne veulent plus rester les bras croisés. Yahare Baba Djakité, porte-parole de la plateforme des organisations de la société civile.
Mettant le Mali au-dessus de tout pour que notre nation puisse continuer d'exister sur l'intégralité de son territoire et d'y exercer
toute sa souveraineté d'antan pour toujours.
Toutes les grandes organisations de la société civile malienne prennent part à cette initiative. Amadou Daouda Tekete, vice-président du Conseil national de la société civile.
On ne sera jamais d'accord pour que le Mali soit divisé. Pas de division, pas de l'indépendance à côté, pas d'autonomie, pas de fédéralisme. Le Mali est un indivisible. Ça, c'est l'appel que nous donnons à tous les Maliens. Il faut que la communauté internationale sache qu'il n'y a pas de demi-mesure. La société malienne ne veut pas une division.
En plus des organisations classiques, il y a les organisations confessionnelles du Mali. Pour elles, pas question de toucher à un centime du territoire malien. Abbé Edmond Amélé de l'Église catholique.
Partout où il est question du Mali, de l'unité du Mali, du respect de l'intégrité territoriale du Mali, de la paix au Mali et de l'unité entre les Maliens ainsi que de la laïcité, l'Église catholique apportera son soutien. Préserver le Mali de cette indépendance que nous voulons combattre.
Au cours de cette conférence de presse, le député de Menaka a pris la parole au nom des notabilités et des communautés des régions nord du Mali, Baja Ag Amatou.
Parce que la plateforme, nous l'avons créée justement pour contribuer à aider à la stabilité de notre pays, à la préservation de l'unité nationale du Mali, à la préservation de son intégrité territoriale, à la préservation aussi de sa forme républicaine. Si le peuple malien est un, il faut que les Maliens s'aiment entre eux.
Et pour boucler la boucle de cette conférence de presse, l'annonce la plus attendue a été faite par Ousmane Chérif Madani Aïdara, guide des leaders spirituels musulmans.
Je lance un appel pour tous les Maliens de sortir le jeudi, Inch'Allah, pour soutenir notre pays. Et puis, vraiment, on veut une Mali sable. On ne veut pas de séparation. C'est à cause de ça, on lance un appel pour tous les Maliens de sortir le jeudi pour supporter.
Cette grande marche annoncée pour ce jeudi 25 septembre 2014 à partir de 16h sera simultanément organisée dans toutes les capitales régionales du Mali. Bamako, Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24h sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Dans un nouveau rapport, les ONG Global Witness et Amnesty International accusent l'Union européenne de faiblesse dans la gestion des minerais de conflit. Notamment, elle lui reproche un projet de législation non contraignant qui, contrairement à la loi Dodd-Frank adoptée aux États-Unis, ne forcerait pas les entreprises à déclarer l'origine des minerais qui entrent dans leur chaîne de production. Le point avec Sabine Gagné, chargée de la campagne Acteurs économiques d'Amnesty International France.
Amnesty International estime que aujourd'hui l'Union européenne ne remplit pas suffisamment ses obligations au sujet des minerais issus de zones de conflit, puisque un nouveau règlement est en train d'être discuté au niveau de l'Union européenne, mais ce nouveau règlement n'est pas contraignant.
Et pourquoi est-ce qu'il n'est pas contraignant ?
Alors, c'est la question que nous sommes en train de poser aux dirigeants. Nous souhaiterions que ce projet de règlement oblige toutes les entreprises européennes à s'approvisionner en minerais de façon responsable. Et on estime que c'est que si ce règlement est contraignant que toutes les entreprises contrôleront leur chaîne d'approvisionnement.
Les États-Unis se sont dotés d'une réglementation. Pourquoi est-ce que l'Europe ne les imite pas ?
Alors nous, c'est ce qu'on met en avant. On prend effectivement l'exemple de la loi que vous citez, qui est la loi dite Dodd-Frank, qui, elle, oblige les entreprises à se renseigner sur la façon dont ont été extraits les minerais qu'elles utilisent pour fabriquer leurs produits. Et les entreprises américaines se sont pliées au jeu et elles n'ont pas pour autant perdu des parts de marché ou autre. Alors qu'aujourd'hui, en Europe, nous n'avons effectivement aucun moyen de savoir ce que font les entreprises européennes pour éviter de financer un conflit ou des atteintes aux droits de l'homme dans le cadre de ces extractions de minerais.
Alors, selon votre communiqué de presse, rien qu'en République démocratique du Congo, en Centrafrique, en Colombie, ce commerce des minéraux rares a en fait alimenté des conflits qui ont déplacé 9,4 millions de personnes, sans parler des violations des droits humains absolument épouvantables qui durent depuis des années.
Il n'y a pas que en République démocratique du Congo ou en Colombie qu'il y a eu les violations de droits humains massive. Il y a également en Birmanie. Et donc, ça touche aussi d'autres ressources naturelles. Et c'est un autre des problèmes du projet de règlement actuellement, c'est qu'il est limité à quelques minerais qui sont l'étain, le tungstène, le tantal et l'or. Et nous, nous souhaiterions l'étendre à d'autres ressources naturelles telles que le diamant, le charbon et la chromite, par exemple, qui sont susceptibles de financer des groupes armés.
Voilà, c'était Sabine Gagné d'Amnesty International France, jointe par Camille Grosdidier.
Jacques Aristide avec vous. Washington Forum revient ce jeudi sur l'épidémie d'Ebola qui pourrait devenir endémique en Afrique de l'Ouest d'après l'OMS. Quels sont les obstacles à surmonter dans la lutte anti-Ebola? Quel impact sur les pays affectés? Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous donc ce jeudi à 19h TU sur la VOA.
Réaction positive pour la plupart aux frappes aériennes américaines contre les militants de l'État islamique en Syrie, avec la participation ou le soutien de Bahreïn, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, de la Jordanie et des Émirats Arabes Unis. Mais sur Internet, les islamistes dans un certain nombre de pays ont dénoncé ces raids. Michel Joseph.
En Égypte, la télévision d'État a établi un parallèle entre l'État islamique et les terroristes qui attaquent l'armée et la police égyptienne dans le Sinaï et ailleurs dans le pays. Le commentateur Hicham Kassem a dit à la VOA que la plupart de ses concitoyens se concentrent plus ces jours-ci sur les questions intérieures. Mais il constate une satisfaction générale après les raids des États-Unis et de leurs partenaires arabes de la coalition. Les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe à l'étranger. Il n'y a pas eu de réaction publique. Cependant, nous savons que l'on comprend maintenant que les gouvernements arabes doivent prendre une position claire contre le terrorisme et l'extrémisme des milices au Moyen-Orient. Pour le commentateur égyptien, il faut trouver une solution globale aux problèmes posés par les militants islamistes si la communauté internationale ne tient pas à continuer d'agir comme des pompiers. Au Liban, la réaction semble généralement favorable. L'État islamique garde en otage quelques soldats libanais après en avoir décapité plusieurs. Selon le professeur Hilan Kashan d'American University à Beyrouth, beaucoup de Libanais sont déçus que cela ait pris autant de temps aux États-Unis et à leurs alliés pour réagir aux attaques des djihadistes. En Syrie même, le ministère de l'Information s'est refusé à commenter quand il a été interrogé sur les raids. Mais la télévision d'État a déclaré que Damas est prêt à aider dans le cadre de la lutte contre les militants de l'État islamique et de Jabhat al-Nusra, qui est lié à Al-Qaïda. Le confrère saoudien Jamal Khashoggi a pour sa part dit que ces frappes montrent la détermination des gouvernements arabes à gagner la guerre contre le terrorisme et à respecter l'engagement pris auprès du secrétaire d'État américain John Kerry lors d'une récente conférence à Jeddah. Ces frappes en sont le reflet, en même temps que la Turquie. Les États arabes et du Golfe ont montré leur soutien à la campagne contre l'EI pour l'Arabie saoudite. Je le vois ainsi, les Saoudiens considèrent l'EI comme une menace sérieuse, non seulement à l'étranger, mais ici même, ils sont déjà en guerre contre l'EI. Les réactions sur des sites arabes sont moins enthousiastes. Un soi-disant nizar a écrit sur celui d'Al Jazeera que l'État islamique et les États-Unis sont les deux faces de la même pièce terroriste.
Place au sport avec Timothée Donangmaï. Bonjour Tim.
Bonjour Morgan.
Commençons par le football anglais avec l'élimination d'Arsenal en 16e de finale de la Coupe de la Ligue.
Eh oui, Arsenal s'est incliné par 2-1 face à Southampton après avoir ouvert la marque au premier quart d'heure. Southampton est revenu à la marque à la 20e minute avant d'inscrire un autre but 20 minutes plus tard. Liverpool aussi a eu des sueurs froides hier contre Middlesbrough, 2-2 avant de s'imposer au tir au but.
En France, Marseille maintient sa place en tête du classement après avoir écrasé Reims hier soir.
5-0, c'est le score qui a sanctionné ce match de la 7e journée du championnat de France. Marseille se donne ainsi une avance de 3 points sur Bordeaux et Saint-Étienne qui s'affronteront jeudi.
La Fédération nigériane de football choisira son nouveau président mardi prochain, Timothée.
Ces élections seront supervisées par le président sortant de la Fédération, Aminu Maigari, évincé à deux reprises au cours des récents mois, avant d'être rétabli chaque fois sur intervention de la FIFA. Le Nigeria, champion d'Afrique, a été suspendu des compétitions internationales pendant 9 jours le mois dernier pour ingérence du gouvernement dans les affaires de sa fédération. Cette dernière a promis un processus électoral crédible et transparent cette fois-ci.
18 candidats en lice pour prendre les rênes des Black Stars du Ghana.
Un seul Ghanéen en course, Kim Grant, l'ancien joueur du club anglais de Charlton. Parmi les autres candidats, le Serbe Milovan Rajevac, qui avait entraîné le Ghana de 2008 à 2010, le menant à une qualification en quart de finale à la Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud. La Fédération ghanéenne de football a remercié le 12 septembre le Ghanéen Kwesi Appiah, qui s'occupait des Black Stars depuis 2012.
Et puis, deux équipes se préparent à jouer un match de cricket sur le mont Kilimandjaro.
Venus d'Angleterre, d'Australie, du Canada, d'Afrique du Sud et du Kenya, ces joueurs, des professionnels et des amateurs, ont entamé une ascension de 8 jours sur les flancs du Kilimandjaro. Leur destination, un cratère recouvert de glace, juste en dessous du sommet à 5785 mètres, où ils doivent arriver vendredi. Objectif de l'expédition, battre le précédent record établi en 2009 lors d'un match joué au camp de base de l'Everest au Népal à une altitude de 5165 mètres.
C'est l'heure de la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Bonjour Morgane. Les artistes vivant en Guinée commencent à se mobiliser, eux, contre l'épidémie. Après la chanson du collectif de plusieurs artistes guinéens, Un geste pour la vie, c'est le tour de la grande chanteuse ivoirienne Aïcha Koné qui vit à Conakry. Aïcha a composé une chanson de sensibilisation à la lutte contre Ebola. Écoutons.
Jangaro minane ko ebola
Manyoko sila mfenye
Bone minane ko ebola
Manyoko sila mfenye
Ebola.
Alors Roger, la chanteuse ivoirienne qui berce l'Afrique de l'Ouest depuis 1976 s'est mise au service d'une juste cause, sensibiliser les populations à l'épidémie.
Oui Morgane, on entend Aïcha Koné chanter « Ebola, c'est le Koiboyola. Retourne à ton point de départ, c'est le Koiboyola. Retourne d'où tu viens. » Pour Koné, ce message est aussi simple qu'essentiel en ces temps d'épidémie. D'après elle, c'est très important de dire à toutes les populations qu'Ebola est vrai. Cette maladie existe vraiment et que lorsqu'on la découvre à temps, on a des chances d'être sauvé.
Aïcha Koné, Ebola. Merci Roger.
De rien Morgane, bonne journée à tous nos auditeurs de Brazzaville au Congo.
Et je vous rappelle que vous retrouvez Roger Muntou dans le RM Show tous les soirs à 20h temps universel.
Ebola, c'est le quoi il y aura là. Il te bourre pour longtemps. Il te voit les Ebola, c'est le quoi il y aura là. Jangaro minane ko ebola
Manyoko sila mfenye
Bone minane ko ebola
Manyoko sila mfenye
Olutarani leane luko Olutarani lagine kaluko ala Wambu tarani sa Seriko iboyola ebola Weye
Seriko iboyola
iponi yo mino oluye ke sila imase yo mino olu hamini eyi ebola seri koi boyo ebola seri koi boyo na sama ukuru ebola seri koi boyo na
Seigneur aide nous et Ebola. Tu n'as pas honte de...
Ainsi s'achève Le Monde Aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. C'était Annette Burton à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction, Morgane Guirier au micro, et je vous souhaite une excellente journée.